I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous n'arrivez pas à faire 10 000 pas par jour, et encore moins tous les jours. Tranquillisez-vous, vous n'êtes pas obligé de marcher 10 000 pas par jour. Vous pouvez en faire moins sans pour autant mettre votre santé et votre forme en péril. Alors pourquoi tout le monde parle de faire 10 000 pas? Et que faut-il vraiment faire? Et bien c'est ce que je vous explique dans cet épisode. Allez, c'est parti! Bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant Samy. Chaque lundi, je vous aide à être en forme, réussir vos défis quotidiens en vous aidant de ma méthode Samy. Sommeil, alimentation, mouvement et idées pour le mental et les habitudes. C'est une méthode que j'ai mise en place à l'approche de la quarantaine quand j'étais hamster, obèse et sédentaire, que j'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, pour reprendre le sport, pour me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond et que vous écoutez à travers tous les podcasts mais aussi mon compte Instagram @BertrandSoulier. Et justement, je vais vous aider à vous transformer physiquement, mentalement, en vous sentant en forme, plein d'énergie, confiant pour le reste de votre vie, pour devenir champion et championne du monde de votre monde et des vieillards galopants. L'épisode du lundi est un épisode court, centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Et cette semaine, nous allons parler de mouvement, hein, dans SAM, le M de mouvement, et notamment de ce mythe des 10 000 pas. Alors, d'où vient ce mythe des 10 000 pas que l'on retrouve vraiment partout? Mais il faut le dire, ça ne vient pas d'une étude scientifique. Ça ne vient pas non plus d'une recommandation de l'OMS. Non, non. C'est un petit peu comme l'histoire, vous savez, du Blue Monday en janvier, qui est le jour le plus triste de l'année, ben en fait ça vient plutôt du marketing et de la publicité, et probablement d'une publicité pour un podomètre. En fait, autour des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, il y a une communication qui s'est faite pour faire bouger plus les Japonais. On va dire à peu près, on a voulu les faire bouger plus. Et donc ce chiffre de 10 000 s'est imposé parce que dans la culture japonaise, d'après Theodore Bestor, qui est chercheur spécialisé dans la société et la culture japonaise à Harvard, le chiffre de 10 000 est de très bon augure. C'est un chiffre de très bon augure. Donc en fait, ce chiffre-là, il est plutôt symbolique et très marketing, et il résonne favorablement chez les gens. Et puis, je trouve que c'est un objectif qui est intéressant, si on prend la définition des objectifs, c'est que c'est un objectif qui est pas facile à atteindre. Si vous avez essayé de les faire, vous vous rendez compte qu'il n'est pas facile à atteindre, mais qu'il n'est pas impossible à faire non plus. Donc en fait, il a la bonne, toutes les caractéristiques d'un bon objectif. Parce qu'un bon objectif, il doit être mesurable, il doit être, on doit pouvoir l'atteindre si on s'en donne la peine, mais il ne faut pas qu'on puisse l'atteindre trop facilement. Donc finalement, ce chiffre de 10 000 pas en lui-même est un bon objectif. Et c'est devenu une référence. C'est peut-être pour ça que c'est devenu une référence. Parce que si vous le regardez partout, si vous regardez autour de vous, si vous regardez les bracelets d'activité, alors maintenant on en a moins, mais il y a toujours votre montre, les applications, ma montre WeThings à une époque avait même le petit chiffre qui était marqué dessus avec un cadran spécial pour cadrer, pour compter les pas. Partout, vous avez cette référence aux 10 000 pas. Elle est partout. Et c'est un chiffre en plus qui est rond, facile à retenir, suffisamment élevé pour qu'on se dise que c'est efficace et que si on a réussi à les faire, ben on s'est quand même donner de la peine. Donc je dis, en lui-même, il est intéressant. Il est intéressant. Et c'est pour ça qu'il s'est imposé partout. Et il faut le dire aussi, c'est qu'à l'époque, quand il a été donné comme ça, il était peut-être pas tant dénué de sens. Peut-être pas tant. Des études montrent que l'apport calorique moyen d'un Japonais en 1964 était de 2632 calories. Ça, c'était l'apport moyen calorique par jour pour un Japonais. Et donc, faire 10 000 pas permettait de consommer entre 300 et 400 calories. Et d'après les calculs, hein, qui sont pas scientifiques, mais qui sont plutôt des évaluations, on va dire, eh ben, ça permettait probablement d'avoir un équilibre. Hein, quand on incitait les Japonais finalement à bouger pour avoir un équilibre de vie, eh ben, c'était probablement largement suffisant. Mais aujourd'hui, si on prend une étude de l'OMS en 2011, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'en fait, en France, on mange 3524 calories par jour. Et c'est le chiffre de 2011. 3524 calories par jour, bah, c'est 1000 calories d'écart, en fait. Donc, si on prenait à peu près les mesures pour dire comment je pourrais éliminer ces calories que j'ingurgite en plus, il faudrait peut-être faire 20 000 pas par jour pour rester dans l'esprit du calcul de départ et à condition que finalement on ne mange pas plus parce qu'on a fait des pas. Donc là, on voit qu'il y a quand même une limite à ce calcul-là parce que petit à petit, on va se rendre compte que dans le temps, il faudrait faire de plus en plus de pas si on continue à manger de plus en plus gras, salé, sucré, dans tous les sens. Et donc, il faudrait voir un petit peu les choses différemment. D'ailleurs, les études scientifiques ont étudié un petit peu le volume de pas qu'il faudrait faire et ils arrivent sur des chiffres qui sont totalement différents des 10 000 pas. C'est ce qu'a fait par exemple Catherine Tudor-Locke qui est chercheuse aux États-Unis à Baton Rouge et qui elle par contre a constaté que des petites augmentations sont avantageuses pour la santé même si on ne fait pas 10 000 pas. Et elle dit que même des petites augmentations sont très avantageuses pour la santé mais que ça dépend du niveau de départ des gens en fait tout simplement. Pour une personne très sédentaire, arriver à faire 5 000 pas dans sa journée est très très bénéfique. Voilà, c'est un petit peu le constat qu'elle a fait, c'est de dire qu'en fait, selon les personnes, selon notre niveau de santé, selon notre niveau de sédentarité, donc c'est-à-dire le temps où on est assis ou couché dans une journée en dehors des phases de sommeil, on n'a pas besoin du même nombre de pas. Voilà, il y a des gens entre vous qui pour qui 10 000 pas, c'est pas grand-chose. Ma moyenne l'an dernier, c'était 13 000 pas par jour de moyenne. Mais il y a des jours où je me rends compte que je peux être très sédentaire parce que je ne sors pas de la maison, parce que j'ai un travail à la maison, parce que il fait pas beau, parce qu'on va rester à la maison pour jouer avec ma fille et des choses comme ça. Et puis il y a des jours où je vais bouger beaucoup plus. Donc ce chiffre finalement de nombre de pas qu'on doit faire est difficile à donner pour tout le monde, mais quelqu'un qui est très sédentaire pourrait faire 5000 pas, il aurait déjà des bénéfices, et elle en fait elle a mis une fourchette qui est entre 5000 et 7000 pas. Alors c'est sûr que c'est moins marketing que les stores des 10 000, et encore on a des études qui montrent qu'il suffirait de faire 4464 pas ou des choses comme ça, donc là c'est encore plus pour retenir, c'est encore plus compliqué. Et en fait ce qu'elle a montré aussi, et là c'est intéressant, c'est que pour des personnes âgées et vraiment des personnes qui bougent plus beaucoup, il est probable que 2215 pas soit largement suffisant pour avoir des bénéfices. En tout cas, c'est ce qu'elle a constaté avec des personnes qui ne bougent quasiment pas. Des personnes âgées, vous voyez très bien des personnes des retraités par exemple, qui bougent très peu de leur maison, qui restent beaucoup dans leur canapé ou assis sur les chaises à la cuisine, qui sont très peu debout. Le fait de les faire marcher quelques pas, mais sans aller sur les 10 000, suffit très largement. Et c'est aussi, je vous avais déjà dit, c'est l'histoire des squats. Arriver à faire lever une personne qui ne fait jamais ça 10 fois de sa chaise de suite, sans céder de ses bras, c'est d'ailleurs un test de bonne santé, un test que font en gériatrie, en vieillissement, on mesure aussi la sarcopénie par ce biais-là. Ça fait partie aussi des exercices de renforcement qui paraissent bêtes comme ça, parce qu'on se dit oui, mais faire 10 squats finalement en se levant de sa chaise, ça paraît rien. Sauf que pour une personne qui ne le fait jamais, c'est beaucoup. Et ce geste-là qui ne paraît rien pour nous, mais qui peut être beaucoup pour des personnes qui ne le font pas, et devient très salutaire en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on a voulu mettre un 10 000 pas pour tout le monde, alors que pour certaines personnes, 2200 ça suffit, pour d'autres 5000 ça suffit, pour d'autres 4000 ça suffirait, pour d'autres 7000. Et puis il se pourrait que pour des personnes, 10 000 ce soit pas assez suffisant, et que ça dépend vraiment du mode de vie, du rythme de vie qu'on a. Alors maintenant, que dit l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, sur finalement les recommandations qu'elle pourrait donner pour être en bonne santé? C'est des chiffres que j'ai déjà donnés, je vais les redonner pour les avoir bien en tête. Elle ne parle pas de pas. Parce que c'est vrai, j'ai lu des articles qui disaient oui, l'OMS recommande de faire 10 000 pas. Mais l'OMS ne recommande pas de faire 10 000 pas. La recommandation actuelle de l'OMS, c'est de faire 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou au moins 75 minutes d'activité physique d'aérobie d'intensité vigoureuse par semaine. Ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et vigoureuse. Autrement dit, l'OMS, elle recommande d'avoir de l'activité entre marcher, courir, faire du vélo. On est un peu là-dedans. Et quand on marche, on est plutôt en modéré. Si on marche plus vite, on est en vigoureux. Si on fait du vélo doucement, on peut être en modéré. Si on fait du vélo plus vite, on peut être en vigoureux. Ça dépend de l'intensité et on pourrait mesurer le vigoureux sur une question de rythme cardiaque. Si vous commencez à être essoufflé, vous passez en vigoureux. Si vous n'êtes pas essoufflé, vous êtes en modéré. Voilà. Donc la recommandation de l'OMS, c'est 150 minutes d'activité modérée et 75 minutes d'activité physique d'intensité vigoureuse par semaine. Quand on fait le calcul, quand on regarde ça vraiment, on se dit mais ça fait pas beaucoup. Et d'ailleurs, l'OMS confirme que les activités d'aérobie devraient être exécutées en séance d'au moins 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, 10 minutes suffisent. Donc ça veut dire que d'aller marcher 10-15 minutes suffit pour qu'il y ait un effet bénéfique sur la santé. On n'est pas obligé de faire 35, 40, 45 minutes. Parce que là aussi, vous voyez, il y a eu de nombreux articles qui disaient il faut courir au minimum 45 minutes pour commencer à avoir des bénéfices, etc. Et tout. Non. Sur le plan de la santé, ce qui suffit, c'est de voir des séances qui sont exécutées d'au moins 10 minutes. Donc ça veut dire que vous pouvez faire une petite marche le matin de quelques minutes, au moins 10 minutes, mais plus c'est mieux, et que ça suffira pour être en bonne santé. Alors, ensuite, l'OMS dit qu'on peut faire plus, bien entendu, qu'il y a des bienfaits supplémentaires pour la santé, pour l'amélioration de la santé des os, de la condition cardio-respiratoire et musculaire, que ça réduit aussi les maladies, même la dépression, si on fait plus d'exercices. Mais le plus d'exercices, comment elle le quantifie ? En fait, elle fait doubler les quantités. En fait, voilà. C'est-à-dire que l'intensité modérée passe à 300 minutes par semaine et l'intensité vigoureuse à 150 minutes. Si vous faites une moyenne, hein, on est à une heure à peu près par jour, hein, à peu près, hein, dans ce calcul-là. Ça ferait, on va dire, 45 minutes de marche, grosso modo. Et vous rajoutez deux, trois séances dans la semaine plus vigoureuses et vous avez les critères demandés par l'OMS. Ce que j'aime bien avec ce chiffre-là en minutes, c'est que c'est beaucoup plus facile à placer dans un emploi du temps, parce que si on vous dit qu'il faut marcher 4000 pas, vous ne savez pas combien de temps il faut faire pour les 4000 pas, ça va dépendre de plein de choses, hein, comme la vitesse à laquelle vous avez marché, où est-ce que vous marchez, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend. Alors que si vous dites je marche 30 minutes, 30 minutes, vous placez ça dans l'agenda et vous dites je vais marcher 30 minutes. Donc les 30 minutes sont beaucoup plus intéressantes pour moi que de dire il faut absolument marcher tant de pas. Et le bénéfice est réel, hein, je l'ai vu avec des personnes que j'ai en coaching, les faire marcher 30 minutes le matin et 30 minutes à midi, notamment, étaient très bénéfiques. Elles ont senti les bénéfices très rapidement là-dessus. Maintenant, l'OMS a une autre recommandation qui est de faire une activité de renforcement musculaire qui fait travailler tous les principaux groupes de muscles, jambes, hanches, dos, abdomen, poitrine, épaules et bras, 2 jours ou plus par semaine. Donc, je répète bien, hein, des activités de renforcement musculaire devraient être faites 2 jours ou plus par semaine. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, en conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, déjà, le premier point, c'est de se rappeler que faire un sport ne suffit peut-être pas. Et que là, ça va dépendre en fait de votre niveau de sédentarité. Car on peut être sportif sédentaire. On peut très bien courir 1 heure dans sa journée et être sédentaire si on reste assis tout le reste de la journée. Ça va très vite. La sédentarité, les effets de la sédentarité commencent à partir de 7 heures assis dans sa journée. Et 7 heures assis dans sa journée, ça va très vite. Ne serait-ce qu'au bureau. Si vous ne levez pas votre chaise pendant les heures de bureau, vous les avez. Si vous allez au travail en étant assis dans une voiture ou dans un bus ou dans un métro, vous les avez. Et puis, moi, je trouve aussi, par exemple, que le télétravail peut renforcer, hein, cet aspect sédentarité. Parce que quand on ne sort pas de la maison, qu'on reste à la maison pour travailler, les déplacements sont très réduits. C'est un constat que j'avais fait parce que ma montre mesure les pas et je me rends compte, hein, que des journées à travailler à la maison, si je ne vais pas courir, si je ne marche pas, si je n'ai aucune petite course à faire, si je reste à la maison et qu'en plus il fait pas beau et qu'on reste à la maison avec ma fille pour jouer, finalement je me retrouve avec très très peu de pas dans la journée, hein, très très peu de pas dans la journée. Et c'est pour ça que même l'objectif de 5000 pas devrait être intéressant. Voilà, vous avez compris un petit peu la logique. Donc on peut faire du sport tous les jours et être sportif sédentaire, et je pense même qu'on peut faire 10 000 pas par jour et être quand même un sportif sédentaire, parce que si les 10 000 pas vous les faites en courant, si vous courez 1 heure, vous avez probablement les 10 000 pas, mais si vous marchez pas du tout à côté, et ben vous êtes quand même sédentaire. Donc le conseil, c'est de dire il faut marcher le plus possible dans la journée, c'est-à-dire remplacer quand on le peut les transports en commun, la voiture, saisir toutes les occasions de se déplacer. Et un premier conseil, ça serait vraiment d'aller marcher 30 minutes par jour, avoir un bout de 30 minutes là, comme ça, où on va marcher le plus tôt possible dans la journée pour synchroniser le rythme circadien. Là, je vous laisse écouter les épisodes qu'on a fait avec Anthony Berthou sur Kilomètre 42 et sur Sport Nutrition. Il avait bien expliqué ça et puis il en parle très bien dans ses livres. Et puis de saisir aussi la moindre occasion de vous lever de votre chaise de bureau. Hein, voilà, ça c'est vraiment le conseil, c'est de dire que, en fait, on n'est pas fait pour être assis. Vous pouvez écouter un épisode qu'on a fait avec Nathalie Simon qui se moquait un petit peu de ça. On n'est pas fait pour être assis tout le temps, en permanence, et il faut se lever, il faut trouver, hein, c'est des occasions de vous lever de votre chaise de bureau le plus souvent possible. Et c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment égaux non plus, hein, sur ces questions-là. C'est une discussion que j'avais par exemple avec la maîtresse de ma fille. Ma fille, elle est en maternelle et qui me disait, ouais, mais est-ce que je marche assez, est-ce que je suis sédentaire ou pas? Je lui dis, je pense qu'en tant qu'enseignant, vous n'êtes pas vraiment sédentaire. Et c'est vrai que son problématique, c'est pas trop d'être assise, c'est plutôt de piétiner, hein, de toujours piétiner dans la salle de classe. Parce que un enseignant, souvent, surtout à ces niveaux-là, mais même moi, quand j'étais prof en fac, je me rendais compte, j'étais franchement pas sédentaire, en fait, parce qu'on est toujours à se déplacer. On a, dans son cas, il y a les enfants qui demandent des choses. Il faut aller voir c'est leur travail, il faut les accompagner. Il y a des récréations qui sont quand même importantes. Il y a les activités de mobilité. Enfin, tout un tas de choses qui font qu'il y a des métiers, notamment dans l'enseignement, on n'est pas si sédentaire que ça, mais il y a des métiers où on est très sédentaire. Donc nous ne sommes pas tous égaux face à ça, hein, par rapport à nos activités, et c'est pour ça que non plus ce chiffre de 10 000 pas en lui-même n'a pas vraiment beaucoup de sens. Voilà, il n'a pas vraiment beaucoup de sens et qu'il faut plutôt trouver d'autres mesures. L'autre idée à garder en tête, c'est d'avoir des activités d'intensité variée. Ça, c'est important parce que le cœur, finalement, c'est un muscle, hein, et qu'on va le renforcer avec à la fois des activités à basse intensité, mais aussi avec des activités à haute intensité. Y a des choses, surtout avec l'âge, on a tendance à ne plus faire. On hésite à monter dans la haute intensité, de même qu'on hésite à porter du poids lourd. Si vous courez, peut-être vous ne sprintez plus, hein, parce que ça fait monter le cœur trop fort, parce qu'on se dit que c'est dur musculairement sur le plan du squelette, etc. Et c'est comme ça qu'en fait on perd en compétences. Donc il faudrait vraiment garder cette notion, hein, que nous partage l'OMS, de dire il faut avoir du mouvement continu, il faut avoir de l'intensité basse, hein, et modérée tous les jours, et il faut aussi rajouter de l'intensité plus élevée aussi, parce que c'est important de le garder. Et puis aussi garder cette dernière idée de faire du renforcement musculaire, de la musculation chaque semaine. Vous voyez, l'OMS le dit, hein, deux fois par semaine, pour maintenir en fait une masse musculaire suffisante. Et ça, c'est vraiment important pour bien vieillir, parce que à partir d'un certain âge, en fait, on perd tous les ans du muscle, et donc c'est bien déjà avant cet âge-là d'avoir faire un stock de muscles, j'ai envie de dire, en tout cas de les entretenir, de les on a plus de facilité en fait à les développer. Et puis quand on continue à faire du renforcement, quand on continue à faire de la musculation, en fait, et ben on les perd moins vite. Et quand on vieillit, ben, c'est ça qui est important aussi pour se tenir droit, pour arriver à tenir l'équilibre, pour porter des choses. Les choses, ça peut être, j'en parlais avec une coachée il y a pas longtemps, ça peut être des enfants, des petits enfants, des courses, ça peut être tout un tas de choses qu'on a besoin de porter dans sa journée, mais que avec l'âge, et ben, si on porte de moins en moins de choses, on n'arrive pas à le faire. Et en fait, on sous-estime souvent notre capacité à porter des choses lourdes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne le fait pas. On a peur de se faire mal, alors que c'est justement en ne le faisant pas qu'on a le plus de chances de se faire mal. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette histoire des 10 000 pas. Donc je vous encourage à aller marcher, à continuer à courir bien entendu, à faire d'autres activités. N'oubliez pas le renforcement musculaire, n'oubliez pas de vous lever de votre chaise de bureau quand vous êtes assis trop longtemps. Moi, je dirais une fois toutes les 25 ou 30 minutes, hein, on a parlé dans des anciens épisodes de Kilomètre 42. Et puis on se retrouve, hein, toute la semaine pour parler de course, pour parler de sport. Et notamment dans l'épisode de mercredi, on reparlera de cette histoire de télétravail, de sédentarité, de courses, d'organisation et des bienfaits de ce que ça nous provoque, hein, le bien-être qu'on peut avoir quand on ajoute de la course et du sport dans sa journée de travail, hein. Ça fait partie d'un sujet qu'on a abordé avec mon invité de mercredi. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très très belle semaine, et on se retrouve dès mercredi pour le prochain épisode. Ciao ciao mes championnes et mes champions.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.